إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي في الله والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبحمد الله سبحانه وتعالى نواصل قراءتنا لكتاب شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله القصيري حفظه الله تعالى وبحمد الله سبحانه وتعالى ندخل اليوم إن شاء الله تعالى في باب الغصب باب الغصب إذن قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغصب وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق طيب فقال إن الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق وهو محرم بحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما توقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين متفق عليه طيب فهذا الحديث قال الشيخ سليمان أخرجه البخاري ومسلم من حديث سعيد بن زيد وأدلة تحريم الغصب كثيرة منها قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولحديث أبي بكرة الطويل وفيه فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم أخرجه البخاري ومسلم Donc, on poursuit, bi'idhillahi azza wa jalla, notre étude du livre de jurisprudence du noble Cheikh Sa'di, rahimahullahu ta'ala, Manhaj Sa'dikin, avec le sharh du Cheikh Sulayman al-Qusayyir, hafidhahullah ta'ala. Et donc, on commence aujourd'hui l'étude du chapitre concernant ce qu'on appelle al-ghasb. Donc, al-ghasb, il dit le Cheikh, والاستيلاء على مال الغير بغير حق. Le fait donc de s'accaparer, donc l'accaparement de biens d'autrui sans droit, c'est-à-dire de manière illégitime ou de manière illicite. D'accord ? Donc, al-rasbu, l'accaparement de biens d'autrui illicitement ou sans droit. Donc, bien entendu, cela est interdit, muharram, en vertu du hadith, dans lequel il dit le prophète, alayhi salat wa salam, celui qui s'accapare un empan de terre, injustement, Allah tabaraka wa ta'ala, encerclera son cou par cet empan de terre le jour de la résurrection et il tombera dans les sept terres. Et cela le fera tomber ou le fera chuter dans les sept terres. Taïb. Muttafaqun alayhi. Dans sept terres. Donc le hadith, celui qui s'accapare un empan, donc shibr, c'est un empan, c'est-à-dire la longueur entre l'extrémité du pouce et l'extrémité de l'auriculaire. lorsque bien sûr la main est ouverte, est grande ouverte. Ça, c'est un empan, jibr en arabe. Donc celui qui s'accapare illicitement, injustement, un empan de terre, Allah tabarak wa ta'ala l'encerclera ou encerclera son cou par cet empan le jour de la résurrection, et cela le fera chuter dans cette terre. Donc le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, muttafaqan alayh, selon Saïd ibn Zayd. Et les preuves, bien sûr, du statut illicite de Al-Rasbu sont nombreuses. Parmi elles, la parole d'Allah tabarak wa ta'ala dans la sourate Al-Baqarah, verset 188, dans le sens rapproché, Allah il dit: et ne mangez pas les biens les uns des autres de manière illicite. D'accord? Et également le hadith de Abi Bakrata, le long hadith d'Abi Bakrata, dans lequel il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, certes, votre sang, vos biens et votre honneur vous sont interdits. C'est-à-dire qu'il sera interdit de porter atteinte ou de causer du tort, hein, yani, entre vous, que ce soit au niveau de votre sang, de votre intégrité physique, ou de vos biens, ou de votre honneur. D'accord? Que ce soit le fait d'accuser quelqu'un injustement, de fornication, par exemple, ou tout simplement de commettre la fornication avec les autres. Le hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim. Taïeb, هناك فائدة إن شاء الله ذكرها أهل العلم. قالوا: الظلم ثلاثة أنواع. الأول ظلم لا يغفره الله عز وجل، وهو الشرك بالله. الثاني ظلم لا يتركه الله، وهو ظلم العباد بعضهم لبعض. ظلم العباد بعضهم لبعض. الثالث ظلم يغفره الله عز وجل، وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه جل وعلا. Ici une faïda par rapport à l'injustice, à dhulm. Ils disent les gens de science qu'à dhulm, l'injustice est de trois sortes. La première sorte d'injustice est une injustice qu'Allah Jalla wa Ala ne pardonne pas. Et c'est quoi cette injustice-là qu'il ne pardonne pas? Eh bien, c'est le shirk. C'est l'associationnisme, hein, le fait d'associer à Allah Jalla wa Ala dans ce qui lui est spécifique, dans ce qui lui est propre. Le deuxième type d'injustice est une injustice qu'Allah Jalla wa Ala ne laisse pas passer. C'est-à-dire l'injustice des serviteurs les uns envers les autres. Les uns envers les autres. Donc cette injustice-là, si la personne ne la répare pas, yani ici-bas sur terre, eh bien Allah Jalla wa Ala rendra justice entre les créatures, les unes envers les autres, yawm al-qiyamah. Donc Allah ne laisse pas passer cette injustice-là. Troisième type d'injustice, l'injustice qu'Allah pardonne. Qu'Allah, yani, pardonne ou peut pardonner, c'est l'injustice de la créature envers elle-même. L'injustice de la créature envers elle-même, bien sûr, dans la désobéissance à son Seigneur, tabarak wa ta'ala. Taïeb. Alhamdulillah. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعليه رده لصاحبه، أي يلزم الغاصب أو يلزم الغاصب أن يرد المغصوب على صاحبه، لأنه حق غيره فوجب رده، ولأن الشارع لم يأذن له بأخذه وصاحبه لم يأذن له كذلك، ولأن توبته لا تتم إلا برده على صاحبه. Puis il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, et donc al-ghasib, c'est-à-dire celui qui s'est accaparé illicitement un bien qui ne lui appartient pas, qui appartient à autrui, et bien bien sûr, il lui est obligatoire, il dit, de le restituer à son propriétaire. D'accord? C'est-à-dire qu'on devra obliger L'exiger de El-Ghasib. El-Ghasib, c'est celui qui s'est accaparé illicitement du bien d'autrui. On va exiger de lui qu'il rende El-Maghsoub, c'est-à-dire ce qu'il a pris illicitement, qu'il rende cette chose à son propriétaire, bien sûr. Car c'est un droit qui ne lui appartient pas et qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc il lui est obligatoire de le rendre. Le législateur qui est Allah tabarak wa ta'ala ne lui a pas autorisé de se servir et de s'accaparer de cette chose. Et également le propriétaire ne lui a pas autorisé. Et également parce que le repentir, s'il veut vraiment que son repentir soit accepté et soit valide, eh bien il n'a pas d'autre choix également que de rendre cette chose-là dont il s'est accaparé à son propriétaire. Taïb, faqal, walaw gharima adha'afahu. Ay, walaw gharima adha'afahu, li ajli raddihi kaman ghasaba hajaran aw khashaban, qimatuhu 1000 riyalin mathalan, wa bana alayhi wa ihtaja fi ikhrajihi wa raddihi ila 3000 ولحديث سمرة ابن جندب على اليد ما أخذت حتى تؤدي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح. Puis dit le Cheikh Saadi, rahimahullah ta'ala, donc celui qui a pris ce bien-là injustement et illicitement, il doit le rendre à son propriétaire, et ce même s'il doit payer yani des frais supplémentaires qui vont venir se rajouter à la somme qu'il doit rendre ou au bien qu'il doit rendre. C'est-à-dire, même si Al-Ghasibu, donc celui qui a pris injustement le bien d'autrui, le fait de rendre ce qu'il a pris, eh bien, va nécessiter le fait qu'il dépense lui-même de son argent pour pouvoir justement rendre ce bien-là. Par exemple, celui qui s'est accaparé injustement de pierre qui ne lui appartient pas, ou de bois qui ne lui appartient pas, d'accord? Et dont la valeur de cette pierre ou de ce bois est de, par exemple, 1000 riyal, 1000 riyal, par exemple. D'accord? Et lui, qu'est-ce qu'il a fait entre-temps lorsqu'il a pris ses pierres et ses bois? Il a construit par-dessus. Il a construit une maison par-dessus, par exemple. Hein? Eh bien, lorsqu'on va lui demander de rendre ses pierres et ses bois, il va avoir besoin, pour les sortir, de frais supplémentaires pour pouvoir aller extraire ces choses dont il s'est accaparé injustement. Donc, forcément, dans ce cas-là également, il sera dans l'obligation de dépenser des frais supplémentaires pour les lui rendre, même s'il doit dépenser pour cela, par exemple, 3000 riyals, alors qu'à la base, la valeur de ces bois, la valeur de cette pierre, n'était que 2000 riyals. D'accord? Donc, il doit rendre ces choses-là, même si pour cela, il doit assumer et dépenser, yani ici, les frais supplémentaire. Non. Et c'est la vertu du hadith de Samura ibn Jundub, dans lequel il dit ici, al-yadi ma akhadat hatta tu'addiyahu. C'est-à-dire la main qui a pris injustement cette chose-là, elle se doit de rendre ce qu'elle a pris, hein, afin de hatta tu'addiyahu, afin de le restituer. Donc, le hadith apporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah. Tirmidhi dit c'est un hadith qui est bon et authentique. Bon, authentique, alhamdoulilah. Mm. Ma ma'na hadha? Ma'na hadha mourad mu'allifi rahimahullah ta'ala dhikru ba'di souwarin, hein, souwari dhamani l'ghasib. Fal'oula, أن العين المغصوبة إذا نقصت فإن النقص يكون على الغاصب فلو غصب مثلا شاة كانت قيمتها 1000 أورو فلم يعلفها حتى نقص وزنها أصبحت تساوي 500 أورو فإنه يغرم نقص وهو 500 أورو وهكذا. Donc, il dit l'auteur ici, rahimahullah ta'ala, wa alayhi naqsuhu. C'est-à-dire, al-ghasib, celui qui s'est accaparé injustement de ces biens-là, il se doit de verser également la réduction de la valeur de ce qu'il avait pris. C'est-à-dire, donc, on comprend par là que l'auteur, rahimahullah ta'ala, va commencer à évoquer certains exemples dans lesquels Al-Ghasibu va devoir verser un dédommagement. Va devoir verser un dédommagement et va devoir garantir le versement de ce dédommagement. D'accord ? Donc, le premier exemple, lorsque la chose qui a été prise illicitement, sa valeur diminue ou cet objet lui-même yani, a diminué. D'accord ? Donc cette diminution-là devra être assumée par Al-Ghasib. Exemple. Si la personne, elle a pris injustement une bête, un mouton par exemple, d'accord ? Et la valeur de ce mouton, lorsqu'il l'avait prise, était de 1000 euros par exemple. 1000 euros. 1000 euros. Et qu'est-ce qu'il a fait quand elle était auprès de lui ? Il ne lui a pas donné à manger. Jusqu'à ce que son poids a fortement diminué. Et en même temps, donc, sa valeur. Et la valeur... Du coup, de cette bête qui a fortement maigri, eh bien, elle est descendue jusqu'à 500 euros, alors qu'à la base, elle faisait 1000 euros. Donc, sa valeur a été divisée par deux. Eh bien, dans ce cas-là, on exigera de la personne, elle rassait, d'assumer cette diminution-là, et donc, qui est de 500 euros, du coup, donc de verser la différence entre la valeur de base au moment où il l'avait prise hein, illégalement, lorsque le jour il va devoir rendre, on va lui imposer de rendre cette bête-là, on va lui imposer également de verser la différence de valeur entre la valeur de base et la valeur yani, actuelle à cause yani, qui a été causée donc par le délaissement notamment de Al-Ghasib wa hakadha. Tayyib. وأجرته مدة مقامه بيده. طيب. فقال الشيخ سليمان يجب على الغاصب أن يتحمل نقص المخصوب وعليه أجرته مدة مقامه بيده لأنه فوت على صاحبه منافعه فعليه ضمان ذلك وهذا هو العدل. مثال أن يغصب ناقة فعليه نفقتها مدة مقامها بيده كما أن عليه أجرتها مدة الغصب وكذا لو انتفع بشيء منها كلبنها فعليه قيمته ولو نقصت قيمتها على وقت غصبه لها ولو نقصت قيمتها عن وقته غصبه لها فعلى الغاصب يدفع قيمة النقص كما ذكرنا. طيب. Puis il continue, Cheikh Sa'adi, rahimahullah ta'ala, et il dit, et son loyer également doit être versé, le loyer de la période durant laquelle donc cette chose a été en sa possession de manière illégale. Donc il dit, Cheikh Sulayman, hafidhahullah ta'ala, il sera obligatoire pour Al-Ghasib d'assumer, encore une fois, la diminution de valeur de cette chose qui a été prise illégalement. Donc il devra verser notamment le loyer de la durée pendant laquelle donc cette chose est restée en sa possession. Pourquoi ? Parce que le propriétaire, du coup, n'a pas pu bénéficier hein, de ce loyer-là durant la période où, justement, elle n'était pas en sa possession. Donc il devra, Al-Ghasib, devra donc verser un dédommagement pour cela. D'accord ? Et cela, c'est ce qu'on appelle la justice. Alhamdulillah. Exemple en cela, si la personne a pris illégalement, mathalan, une chamelle. D'accord? Donc il devra subvenir à ses besoins et dépenser pour elle. Déjà, tout le temps durant lequel cette chamelle restera en sa possession, donc il est obligé de dépenser pour cette bête, d'accord? Il doit également dépenser le loyer, le prix de la location, si vous voulez, pendant toute la période où cette bête-là reste en sa possession de manière illégale. D'accord? Et également, si la personne a profité du lait de cette chamelle-là, lorsqu'il va la rendre, il devra payer la valeur de ce lait, hein, dont il a profité durant toute la période. Et également, si la valeur de cette chamelle a diminué par rapport à la valeur de base au moment où il l'avait prise illégalement, eh bien, comme on a dit tout à l'heure, il devra donc verser la différence, et donc la différence de valeur entre la valeur au début et la valeur actuelle. جيد. فهذه الصورة الثانية من الضمان، وهي أن الغاصب يكلف بأجرة المغصوب، مثل أن يغصب دارا فيكلف بأجرتها، أو يغصب سيارة فيوقفها وصاحبها يؤجرها فيكلف بأجرتها. Donc ça c'était du coup le deuxième exemple, hein, de dédommagement qui doit être versé par Al-Ghasib, qui va donc devoir assumer le loyer de cette chose-là qui a été prise illégalement par lui. Hein, comme par exemple s'il a pris illégalement une maison, eh bien il va devoir du coup payer le loyer de cette maison-là pour toute la période pendant laquelle il était à l'intérieur. S'il a pris également illégalement une voiture, hein, et que du coup le propriétaire n'a pas pu la louer à ses clients, eh bien il devra en assumer les conséquences, c'est-à-dire le fait de verser la location durant toute la période pendant laquelle elle était en sa possession. Pourquoi? Parce que le propriétaire du coup est passé à côté du bénéfice de la location de cette voiture-là. طيب الحمد لله. فنواصل إن شاء الله تعالى. فقال المؤلف رحمه الله: وضمانه إذا تلف مطلقا، يعني إذا تلف المغصوب بيد الغاصب فإنه يجب عليه ضمانه، فإن كان له مثل كالأثمان والحبوب والأواني ونحوها فإنه يضمن مثله، لأن المثل أقرب إليه من القيمة. ومن ذلك ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، وحبس الرسول صلى الله عليه وسلم والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة، أخرجه البخاري. وإن لم يمكن رد مثل المثل لإعوازه أو كان مما لا مثل له وجبت قيمته، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما اعتق، أخرجه البخاري ومسلم. فأمر بتقويم حصة الشريك لأنه أتلف حصة الشريك بالعتق. طيب. Puis dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, et également le al-ghasib, donc je vous rappelle que al-ghasib, c'est celui qui a pris illégalement un bien qui ne lui appartient pas. Il devra verser donc un dédommagement également si ce qu'il a pris a été abîmé, a été détruit, détérioré. D'accord? Donc si cette chose qu'on appelle al-maghsoub a été détériorée, yani en la possession de Al-Ghasib, il devra donc verser un daman, un dédommagement. Il devra assumer le dédommagement de cela. D'accord? Donc, si il a pris, par exemple, de l'argent, eh bien, à la base, c'est qu'il doit rendre de l'argent. S'il a pris, par exemple, yani, 500 euros ou 1000 euros, d'accord? Et que ces 1000 euros ont été perdus, il devra rendre également 1000 euros. Peu importe, même si ce n'est pas, bien sûr, les mêmes billets qu'il avait pris à la base, eh bien, il devra rendre 1000 euros. S'il a pris, par exemple, des grains, hein, ou des céréales, il devra rendre des céréales également, même s'il a perdu, ou si les céréales qu'il avait prises à la base ont été perdues ou détériorées ou abîmées, eh bien, il devra rendre des céréales également. S'il a pris des récipients, des ustensiles qu'il a cassés ou qu'il a abîmés, il devra rendre des ustensiles, des récipients, yani, d'autres récipients qui sont, eux, non abîmés et qui peuvent donc encore servir, et autre que cela. D'accord? Donc la base, c'est que la personne doit verser ou doit rendre ce qu'il a cassé ou doit rendre ce qu'il avait yani, détérioré, mais il doit rendre le même objet. Yani, pas l'objet, dans le sens, pas l'objet qu'il a cassé, mais un autre objet, d'accord? Le même objet, mais bien sûr, dans le même état qu'il avait prise à la base. D'accord? S'il a pris, par exemple, 20 kilos de riz et que ce 20 kilos de riz qu'il avait pris à la base a été abîmé et touché par l'humidité ou que sais-je, par la pluie, par exemple, il devra rendre 20 kilos de riz yani, en bon état et d'une bonne, de la même qualité qu'il avait prise à la base. D'accord? Donc je pense que cela est clair. Pourquoi? Parce que le fait de rendre la même chose, bien sûr, est plus proche de, sera plus proche de la valeur exacte, hein, lorsqu'il avait pris ces choses-là initialement. Et en cela, on a le hadith sur lequel s'appuyer, qui est le hadith de Anas, radiallahu anhu, qui dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, était donc chez chez une de ses femmes, lorsque une de ses épouses, une des mères des croyants, a envoyé à lui avec un servant une qasa, c'est-à-dire un gros récipient ou un récipient en bois, hein, comme disent les ulama, un récipient en bois dans lequel il y avait donc de la nourriture. Et quand ce récipient avec la nourriture est arrivé chez l'une de ses femmes, donc les gens de sens disent que c'était Aïcha, hein, radiallahu anha, lorsque Aïcha, elle a vu ce récipient, eh bien, elle a frappé le récipient avec sa main et elle a cassé, yani, elle a cassé le qas'a. Elle a brisé le qas'a. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le prophète, alayhi salatu wassalam? Eh bien, il a rassemblé les morceaux de le qas'a et il a yani, réparé les fissures hein, de le qas'a. Et il a mis dedans la nourriture et il a dit manger. Il a dit manger. Puis le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont terminé, eh bien il a donné au servant une qas'a, yani neuve, une qas'a neuve, et il a gardé la qas'a donc qu'elle avait brisée, radiyallahu anha. D'accord? Donc ici dans ce hadith, on voit que eh bien celui qui a cassé ou détérioré un objet qui ne lui appartient pas, eh bien, il se doit de rendre le même objet yani, en bon état. En bon état, yani, c'est pas, bien sûr, ce n'est pas exactement le même, mais un objet qui aurait la même valeur et le même modèle, et ainsi de suite. Taïeb. Donc, le hadith rapporté par Al-Bukhari. Et si, en revanche, il ne lui est pas possible de rendre yani, exactement le même objet, parce que Il n'en est pas capable parce qu'il n'existe pas de ce modèle-là, exactement de ce modèle-là. Eh bien, il sera obligé dans ce cas-là de rembourser la valeur de cette chose. Et cela en vertu du hadith de Ibn Omar, radiallahu anhuma, selon lequel Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a affranchi sa part d'un esclave. D'accord? Donc il faut savoir qu'à l'époque, il se pouvait qu'un esclave appartienne à plusieurs personnes qui étaient donc associées, yani, par rapport à cet esclave. D'accord? Donc celui qui affranchit sa part de propriété d'un esclave et qu'il a assez de ressources pour pouvoir justement affranchir toutes les parts de cet esclave-là, qui appartient donc à ses associés, d'accord? Eh bien, qu'il le fasse. Qu'on estime la valeur de cet esclave-là d'une valeur, yani, juste, d'accord? Et qu'il donne du coup à ses associés la valeur de leur part, yani, à l'égard de cet esclave-là. Et l'esclave donc sera du coup libre. D'accord? Alhamdulillah. Taïeb. Et s'il n'a pas les moyens, eh bien qu'il paye sa part. Mais par contre, yani, l'esclave appartiendra toujours aux autres associés. Taïeb. Non. Donc là, on voit encore une fois que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné, yani, d'estimer, hein, la valeur de l'associé ou la valeur des associés. Voyez? Pourquoi? Parce que le fait d'affranchir une part, hein, une part de cet esclave-là, eh bien, il aura du coup diminué la part de son ou de ses associés. Non. Il devra donc rembourser la valeur si jamais l'esclave est affranchi, donc il devra rembourser bien sûr les parts de ses associés, yani, qui étaient aussi donc eux aussi propriétaires de cet esclave. Non. Voilà. Voilà. Alhamdulillah. Waqala al-mu'allif rahimahullah wa ziyadatuhu li rabbihi. Yani anna nama al-maghsubi wa ziyadatuhu li sahibihi wa laysa lil ghasib minhu shay. فلو كان المغصوب شاة مثلا وولدت فإنه يردها وولدها. Puis il dit, on a parlé tout à l'heure, lorsque la valeur elle diminue, il faut qu'il assume cette diminution. Si la chose elle est détériorée ou abîmée ou perdue, il faut qu'il l'assume également. Et même si la valeur elle augmente, eh bien il faut qu'il assume cette augmentation-là et qu'il verse cette augmentation au propriétaire de cette chose. C'est-à-dire que lorsque la chose qui est marsoub, sa valeur, elle a augmenté, ou elle s'est développée, ou elle a grandi, eh bien, on devra verser cette augmentation-là pour son propriétaire. D'accord? Et El Rassib, bien sûr, n'aura pas le droit de garder quoi que ce soit de cette augmentation. Donc, si El marsoub, la chose qui a été prise illicitement, par exemple, est une bête, c'est une chèvre par exemple. Et cette chèvre, elle a donné naissance, hein, à un petit. Donc est-ce qu'il va pouvoir garder ce petit et ne rendre que la chèvre? Non. Il va devoir rendre la chèvre, mais aussi il va devoir rendre ce petit, hein, qui est né de cette chèvre-là. Il devra rendre les deux bêtes, yani, à leur propriétaire. D'accord? وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه يعني لصاحب الأرض أن يلزم الغاصب بقلع ما غرس وإزالة ما بناه فيها لهذا الحديث. Donc il dit ici, Cheikh Saadi rahimahullah ta'ala, ici la chose qui a été prise c'est une terre. La personne a pris une terre illégalement. Et il a commencé à cultiver des choses dessus, à planter des arbres, ou alors il a construit des maisons dessus. Eh bien, le propriétaire, bien sûr, pourra lui imposer eh bien, de déraciner tout ce qu'il a planté, hein, ou d'enlever tout ce qu'il a construit dessus. Vous voyez? Donc ça, c'est le droit du propriétaire, encore une fois, de la terre, qui pourra donc imposer à ce râsib de déterrer tout ce qu'il a planté et d'enlever tout ce qu'il avait construit dessus, et cela en vertu du hadith ici rapporté par Abu Daoud, dans lequel il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire celui qui a planté des arbres injustement, ou celui qui a construit des choses injustement et illicitement sur une terre, eh bien, il ne pourra pas, il n'a aucun droit sur ces choses-là. Le hadith rapporté par Abu Daoud wa Tirmidhi min hadith Hisham ibn Urwata an Abihi an Sa'id ibn Zayd wa qala Tirmidhi hasan gharib wa qad rawahu ba'dhum an Hisham ibn Urwata an Abihi an Nabi sallallahu alayhi wa sallam mursalan wa qawluhu li'irq zalim بتنوين عرق وظالم صفة له وهو راجع إلى صاحب العرق أي ليس لذي عرق ظالم وصورته أن يغرس شخص أو يبني في أرض غيره بغير إذنه فإنه يؤمر بقلعه إلا أن يرضى صاحب الأرض بتركه. طيب دونك là, par rapport à ce hadith, طيب rapporté comme on a dit par Abu Dawood, Tirmidhi, il dit ici l'exemple, donc, la personne a planté des choses ou a construit sur une terre qui ne lui appartient pas sans la permission du propriétaire. Donc, dans ce cas-là, on pourra lui ordonner, du coup, de déraciner, de déterrer tout ce qu'il a construit, yani, ou tout ce qu'il a planté, sauf si le propriétaire de la terre, yani, accepte et consent de les laisser. D'accord? Non. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب أي حكم من انتقلت إليه العين ببيع أو هبة أو نحوهما حكم الغاصب في كل ما تقدم إذا كان يعلم أنها مغصوبة ومثاله إذا اشترى بيتا مغصوبا وهو يعلم ذلك فإنه شريك للغاصب أما من اشتراه وهو لا يعلم بالغصب فلا شيء عليه ويرجع هو على الذي غره من غاصب أو غيره. طيب Puis il dit, pour finir ce chapitre-là de Al-Ghasb, rahimahullah, il dit, et celui qui a eu dans ses mains un objet qui lui a été parvenu de la part de Al-Ghasib, de la personne qui donc avait pris cet objet-là de manière illégale et illicite, hein, et toi tu sais qu'il a pris de manière illicite et tu acceptes de sa part cette chose. Eh bien, sache que le jugement de celui qui l'accepte est le même jugement que El-Ghasib. C'est-à-dire, le jugement de la personne qui a reçu dans ses mains cette chose, que ce soit à travers une transaction commerciale ou tout simplement un cadeau qu'on lui a fait, et autre que cela, eh bien, s'il est au courant, s'il sait que cet objet, cette chose, elle a été prise illégalement, eh bien, il aura le même jugement que El-Ghasib dans tout ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, toutes les règles que l'on a vues tout à l'heure dans ce chapitre-là, eh bien, il sera lui aussi assujetti aux mêmes règles que El-Ghasib, à condition, bien sûr, qu'il soit au courant, qu'il soit au courant que cette chose-là a été bel et bien prise et accaparée de manière illégale. Exemple, si la personne elle a acheté une maison qui a été justement prise illégalement, alors que elle sait, elle est consciente de cela, eh bien, elle sera associée dans cet acte illicite, elle sera associée avec El-Ghasib. Quant à celui qui l'a acheté, mais il ne savait pas que cette chose, elle a été prise illégalement, eh bien sûr, il n'a pas commis de péché, mais il devra se retourner du coup contre celui qui l'a trompé, que ce soit Al-Ghasib ou autre que lui. D'accord? Elle pourra donc se retourner pour récupérer son argent ou ses biens. Elle se retournera contre ceux ou celui qui l'a trompé. Ou hakadha. Taïeb. Falhamdulillah. Barakallahu fikum. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la bonne compréhension et qu'il nous fasse comprendre yani, les règles qui tournent autour des transactions, etc. Donc, on a bientôt fini ce grand chapitre-là, hein, Inch'Allah Ta'ala. Donc, on va rentrer bientôt dans un autre grand chapitre. Dans un autre grand chapitre, bi'idhnillah azza wa jal, qui est Kitabu al-Mawarith. Kitab al-Mawarith, d'accord, qui est un chapitre qui est aussi très important et pour lequel certains savants ont consacré des livres, yani, des livres propres et spécifiques à ce chapitre-là, qui est Kitab al-Mawarith, le chapitre des héritages. Wa hakadha, wallahu ta'ala a'lam. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته